Chapitre 2. On brise la glace. Le cottage, à la fenêtre duquel s'était mise pour regarder les demoiselles Williams, se trouve, et depuis bien des années déjà, dans cet agréable district suburbain qui s'étend entre Norwood, Annerley et Forest Hill. Bien du temps auparavant, alors qu'il était question d'en faire une municipalité et que la capitale était encore lointaine, le vieux Mr. Williams avait habité les broussailles, ainsi qu'on nommait la maisonnette. Il était propriétaire de tous les terrains environnants. 6 ou 8 cottages, éparpillés sur toute cette campagne ondulée, c'étaient là toutes les habitations qu'on y rencontrait dans les premières années du siècle. De fort loin, quand le vent soufflait du nord, arrivait le bruit sourd, le grondement de la grande cité, pareil à une marée vivante, et vers l'horizon se voyait le vague rideau de fumée, sombre écume que laissait cette marée. Mais peu à peu, avec les années, la cité avait émis un long tentacule de briques dans une direction, puis dans l'autre, se courbant, s'allongeant, prenant de l'épaisseur, si bien qu'à la fin, les petits cottages avaient été englobés par ces appendices rouges et avaient été absorbés pour faire place à la villa moderne. Morceau par morceau, le domaine du père Williams avait été vendu aux spéculateurs en construction et avait produit de riches moissons, de confortables demeures suburbaines plantées d'arbres. Le père était mort avant que son cottage fût entièrement enveloppé par les briques, mais ses 2 filles vécurent assez longtemps pour voir disparaître sous leurs yeux le dernier vestige de campagne. Elles s'étaient obstinées pendant des années à garder la dernière pièce de terre, celle qui faisait face à leur fenêtre, et ce ne fut qu'après avoir longtemps raisonné et avec un serrement de cœur qu'elles avaient enfin consenti à la laisser partager le sort des autres. Une large route fut percée à travers leur tranquille propriété. Le quartier fut rebaptisé le désert et 3 villas de forme cubique et raide dressèrent leurs façades de l'autre côté. Les 2 petites vieilles timorées, le cœur peiné, suivirent les phases de la construction en se demandant quelle espèce de voisin le hasard amènerait dans ce petit coin qui avait toujours été si bien à elles. À la fin, les 3 villas furent achevées. Elles avaient été pourvues de balcons de bois et de toitures en auvent, de sorte que, pour parler le langage des annonces, il y eut là 3 chalets genre suisse fort engageants, avec 16 pièces, sans soubassement, avec sonneries électriques, eau chaude et froide, et tout ce que comporte le confort moderne, y compris une pelouse à tennis commune, à louer au prix de 100 livres par an, ou à vendre pour 1500 livres. Ces conditions étaient si alléchantes que les villas ne restèrent pas longtemps vacantes et l'on apprit que l'amiral Haydenver, Mrs. Haydenver et leur fils unique étaient sur le point d'emménager. Cette nouvelle ramena la paix dans le cœur des sœurs Williams. Elles en étaient venues à la conviction bien arrêtée qu'elles verraient leur tranquillité définitivement détruite par l'arrivée d'une colonie d'intolérables sauvages, d'une famille d'étourdis, passionnée de bruit et de chant. Un coup d'œil jeté sur nos contemporains leur apprit que l'amiral Haydenver était un officier des plus distingués qui avait débuté dans la carrière active à Bomarsund et l'avait terminé à Alexandrie et s'était arrangé pour mettre entre ces 2 épisodes autant de service qu'aucun des gens de son âge. Depuis l'effort de Tatou jusqu'à la chasse aux doroses de Zanzibar, il n'était aucun genre de campagne maritime qui ne figurât dans ses états de service. En même temps, la croix de Victoria, la médaille d'Albert pour sauvetage, prouvaient qu'en temps de paix comme à la guerre, il avait toujours fait preuve de la même énergie. Évidemment, ce serait là un voisin fort acceptable, d'autant plus que l'agent de location leur avait dit tout confidentiellement que le fils, Mr. Harold Denberg, était un gentleman des plus tranquilles et qu'il était retenu par ses affaires du matin jusqu'au soir à la bourse. Les Haydenver finissaient à peine leur installation que le numéro 2 enleva aussi son écriteau. Et cette fois encore, les vieilles demoiselles reconnurent qu'elles n'avaient aucun motif de redouter leurs voisins. Le docteur Balthazar Walker avait un nom très connu dans le monde médical. Ses titres, l'énumération des sociétés dont il était membre, la liste de ses travaux, ne remplissait-il pas toute une demi-colonne de l'annuaire médical? Depuis son premier petit article sur la diathèse goutteuse de 1859, jusqu'à son grand ouvrage sur les affections du système vasomoteur, paru en 1884. Une heureuse carrière médicale, qui promettait d'aboutir à l'élection comme président d'un collège et à une nomination de baronnette, avait été brusquement interrompue par un héritage inattendu, une somme considérable léguée par un client reconnaissant, ce qui lui avait assuré désormais une complète indépendance et l'avait mise en état de ne plus consacrer son attention qu'aux parties purement scientifiques de sa profession, point de vue qui avait toujours eu pour lui plus de charme que les côtés plus pratiques, plus commerciaux. C'est pour cela qu'il avait quitté sa maison de Weymouth Street et qu'il avait saisi cette occasion de s'installer avec ses instruments scientifiques et ses deux charmantes filles. Il était veuf depuis quelques années, dans le milieu si tranquille de Norwood. Il ne restait donc plus qu'une villa inoccupée, et il n'y avait rien d'étonnant à ce que les deux vieilles filles aient suivi avec une attention si vigilante, qui fit place aux inquiétudes les plus cruelles, les incidents curieux qui annoncèrent l'arrivée des nouveaux venus. Elle savait déjà par l'agent que la famille se composait uniquement de deux personnes, Mrs. Westmacott, une veuve, et son neveu, Charles Westmacott. Comme cela, vous avez un air simple et sélect. Qui aurait prévu, d'après ces données, les phénomènes précurseurs qui semblaient présager le règne de la discorde et la violence parmi les habitants du désert? Et les deux vieilles filles de s'écrier encore une fois, en chœur, combien elles regrettaient d'avoir vendu leurs pièces de terre. En tout cas, Monique, remarqua Berthe lorsqu'elles prirent leur thé de cet après-midi, si étrange que soient ces gens-là, il est de notre devoir de nous montrer aussi polis avec eux qu'avec les autres. C'est tout à fait certain, approuva sa sœur. Puisque nous avons rendu visite à Mrs. Haydenverre et aux demoiselles Walker, nous devons également une visite à Mrs. Westmacott. C'est certain, ma chère. Tant qu'ils habiteront sur notre terre, il me semble qu'ils sont en quelque sorte nos hôtes et que c'est notre devoir de leur souhaiter la bienvenue. Alors, nous ferons cette visite demain, dit Berthe d'un ton décidé. Oui, ma chère, nous la ferons. Mais comme je voudrais que ce fût chose faite. Le lendemain, à 4 heures, les deux vieilles dames partirent pour s'acquitter de leurs tâches hospitalières. Vêtues de leurs robes de soie noire, aux plis raides et bruyants, de leurs jaquettes bordées de jais, avec de petites rangées de frisons grisonnants, cylindriques, retombant à droite et à gauche sous leurs chapeaux noirs, elles avaient l'air de deux vieilles gravures de mode qui se seraient trompées de 10 ans. À la fois craintives et curieuses, elles frappèrent à la porte du numéro 3, qui leur fut aussitôt ouverte par un jeune page aux cheveux rouges. Oui, Mistress Westmacott était chez elle. Il les introduisit dans la pièce de devant, qui était meublée en salon et où brûlait un grand feu, malgré la douceur de cette journée de printemps. Le domestique prit leurs cartes, et alors, pendant qu'elles s'asseyaient sur un canapé, il mit leurs nerfs en mouvement en courant derrière un rideau, jetant un cri perçant et fourrageant quelque part avec son pied. Le petit Bulle qu'elles avaient vu la veille s'était échappé de sa retraite et arrivait d'un pas incertain en grondant. « Il en veut à Elisa, » dit le jeune garçon à demi-voix et d'un ton confidentiel. Le maître a dit qu'il en recevrait plus qu'il n'en donnerait. Puis il adressa un sourire affable aux deux petites personnes qui se tenaient bien raides. Puis il partit à la recherche de sa maîtresse. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» fit Berthe d'une voix entrecoupée. « Quelque chose à propos d'un... « Oh, grand Dieu! Oh, Berthe! Oh, juste ciel! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours !» Les deux sœurs avaient regagné le canapé d'un bond et s'y tenaient debout, ouvrant de grands yeux, rassemblant leurs jupes et remplissant toute la maison de leurs cris. Par-dessus le bord élevé d'une corbeille d'osier placée près du feu, surgissait une tête aplatie et en forme de diamant, avec de méchants yeux verts. Elle se dressait en se balançant doucement de côté. Elle monta jusqu'à ce qu'on pût voir une longueur d'un pied au moins, un cou écailleux et luisant. Lentement, la tête menaçante se dressa, toujours se balançant, et à chaque oscillation, un nouveau cri de terreur jaillissait du canapé. « Qui a-t-il donc de déranger ?» cria une voix. Et aussitôt parut, debout sur le seuil, la maîtresse de la maison. Son premier coup d'œil lui montra seulement deux inconnus, debout sur son canapé de peluche rouge. Mais un second regard, dirigé vers le foyer, lui apprit la cause de leur épouvante, ce qui la fit partir d'un éclat de rire. « Charlet !» s'écria-t-elle, « voilà encore Élisa qui se conduit mal !»« Je vais la remettre à sa place !» répondit une voix masculine. Et un jeune homme entra d'un pas rapide. Il apportait une couverture de cheval de couleur brune, qu'il jeta sur la corbeille et qu'il assujettit avec un bout de ficelle, de manière à emprisonner efficacement l'animal qui y logeait, pendant que sa tante se hâta d'aller rassurer ses visiteuses. « Ce n'est qu'un serpent des rochers » explique-t-elle. « Oh, Berthe ! Oh, Monique !» firent ensemble les deux pauvres demoiselles haletantes, n'en pouvant plus. « Elle vient de pondre quelques œufs, c'est pour cela que nous faisons du feu. Élisa se porte toujours mieux quand elle a chaud. C'est une bonne bête, bien douce, mais sans doute, elle aura cru que vous en vouliez à ses œufs. J'espère que vous n'y avez pas touché. »« Oh, allons-nous-en, Berthe !» s'écria Monique, en tendant l'air horrifié, ses maigres mains gantées de noir. « Non, ne partez pas, passez dans la pièce à côté, » dit Mistress Westmacott, du ton d'une personne dont la parole fait loi. « Par ici, s'il vous plaît, il fait moins chaud ici. » Elle les précéda dans une bibliothèque bien garnie, avec trois grands côtés pleins de livres, le quatrième côté occupé par une longue table jaune où étaient entassés en désordre des papiers et des instruments scientifiques. « Asseyez-vous ici et vous là, » reprit-elle. « C'est bien. Maintenant, voyons, laquelle de vous est Miss Williams et laquelle est Miss Berthe Williams ?»« Je suis Miss Williams !» dit Monique, encore toute palpitante et jetant autour d'elle un regard furtif, comme si elle craignait de voir surgir quelque autre monstre. « Et vous habitez, à ce qu'on m'a dit, ce joli petit cottage là-bas ? C'est très gentil de votre part de venir si tôt me rendre visite. Je ne suppose pas que nous devions beaucoup nous voir, mais c'est égal, l'intention est bonne. » Elle croisa les jambes et s'adossa à la cheminée. « Nous pensions que nous pourrions être de quelque utilité, » dit timidement Berthe. « S'il y a quelque chose que nous puissions faire pour que vous vous trouviez mieux chez vous. » « Oh, je vous remercie. Voilà trop longtemps que je voyage pour ne pas me trouver chez moi, quelque part que j'aille. Je reviens justement de passer quelques mois aux îles Marquises où j'ai fait une excursion des plus agréables. C'est là que j'ai eu Élisa. À l'heure actuelle, les îles Marquises sont à plus d'un point de vue le premier pays du monde. » « Ah, mon Dieu !» s'écria Miss Williams. Pour les rapports entre les deux sexes, ce pays-là a résolu le grand problème à sa manière et sa situation insulaire lui a permis d'appliquer une solution qui lui appartient en propre. Entrez, Charles, et asseyez-vous. Élisa va-t-elle bien ? Tout à fait bien, tante. Voici nos voisines, les demoiselles Williams. Elles accepteraient peut-être du stout. Vous pourriez aller en chercher deux bouteilles, Charles. « Non, non, merci, pas pour nous !» s'écrièrent avec empressement les deux visiteuses. « Non, je suis fâchée de n'avoir pas de thé à vous offrir. J'estime que la condition subalterne de la femme est due en grande partie à ce qu'elle laisse à l'homme l'usage de boissons nourrissantes et des exercices fortifiants. Je ne fais ni l'un ni l'autre. » Elle ramassa une paire d'haltères de 15 livres qui se trouvaient près du foyer et les balança avec aisance au-dessus de sa tête. « Vous voyez à quoi on peut arriver avec le stout ?»« Mais ne croyez-vous pas, » suggéra timidement l'aînée des sœurs Williams, « ne croyez-vous pas, Mrs. Westmacott, que la femme a sa mission particulière ?» La dame de la maison laissa tomber à grand bruit ses haltères sur le parquet. Ah, les vieilles formules ! S'écria-t-elle, le mot d'ordre de jadis. Quelle est-elle donc, cette mission spéciale à la femme ? Tout ce qui est humble, tout ce qui est mesquin, tout ce qui est mortel pour l'âme, tout ce qui est si méprisable et si mal payé que personne autre ne veut y toucher. Tout cela, c'est la mission de la femme. Et qui l'a renfermée dans ses bornes ? Était-ce la Providence ? Était-ce la nature ? Non, c'est l'ennemi par excellence, l'homme. Oh, pourtant, petite tante ! Dit son neveu d'un accent traînant. Ce fut l'homme, Charles, ce fut vous et vos pareils. Je dis que la femme est un monument colossal de l'égoïsme masculin. Qu'est-elle, cette chevalerie tant vantée ? Que sont vos belles paroles et ces phrases vagues ? Où sont-elles quand nous demandons qu'on les mette en action ? D'une manière abstraite, l'homme fera tout son possible pour aider la femme. Naturellement. Que fait-il quand il s'agit pour lui de mettre la main à la poche ? Où est passé alors son esprit chevaleresque ? Les docteurs l'aideront-ils à prendre ses grades ? Les hommes de loi lui faciliteront-ils l'accès de la barre ? Le clergé l'admettra-t-il à l'église ? Oh, alors on serre les rangs et on renvoie la pauvre femme à sa mission. Sa mission, c'est de recevoir avec gratitude le billon et de ne point se mêler aux hommes quand ceux-ci fouillent pour avoir l'or comme des porcs autour d'une auge. Voilà ce que l'homme entend par la mission de la femme. Oh, vous avez beau rester à ricaner, Charles, en contemplant votre victime, vous savez que c'est la vérité du premier au dernier mot. Si terrifiées que fussent les deux dames de cette brusque éruption de mots, elles ne purent s'empêcher de sourire en voyant cette victime à l'air farouche et dominateur et ce gros représentant du sexe masculin qui restait là avec l'air de s'excuser et portait avec humilité les péchés de son sexe. La dame, prenant une cigarette dans une boîte qui se trouvait sur la cheminée, l'alluma et se mit à aspirer la fumée. « Je trouve cela très calmant, pour peu que j'aie les nerfs agités, » expliqua-t-elle. « Vous ne fumez pas ? Ah ! Vous ignorez un des plaisirs les plus purs, un plaisir qui n'est suivi d'aucune réaction. » Miss William égalisa le devant de sa robe de soie noire. « Ce plaisir-là, » dit-elle avec un léger soupçon de rébellion, « Berthe et moi, nous sommes trop à la mode d'autrefois pour l'apprécier. » « Sans doute. Si vous en tâtiez, il est probable que vous seriez fortement indisposé. À propos, j'espère que vous viendrez quelquefois à nos meetings de syndicats. Je m'occuperai de vous faire envoyer des billets. »« Votre syndicat ?»« Il n'est pas encore formé, mais je constituerai un comité sans perdre de temps. J'ai pour habitude d'établir une section du syndicat d'émancipation partout où je vais. » Il y a à Annerley une Mrs. Sanderson qui fait déjà partie des émancipés, de sorte que j'ai un noyau. C'est seulement en organisant la résistance, Miss Williams, que nous pouvons espérer maintenir nos droits contre le sexe égoïste. Est-ce que vous êtes obligée de partir ?
Oui, nous avons une ou deux visites à faire, dit la sœur aînée. Vous nous excuserez, j'en suis sûre. J'espère que vous trouverez Norwood un agréable séjour.
« Toutes les localités ne sont pour moi que des champs de bataille, » dit-elle en donnant à l'une puis à l'autre une poignée de main qui écrasa leurs maigres petits doigts. Le jour, je le consacre au travail et à d'hygiéniques exercices, les soirées à Browning et à des entretiens de haute volée, n'est-ce pas, Charles ? Bonsoir. » Elle les accompagna jusqu'à la porte et en jetant derrière elle un regard furtif, elle la vire debout sur le seuil, ayant sous le bras le petit chien jaune et aux lèvres la cigarette dont la fumée bleue montait en spirale.